Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une nouvelle élection municipale se tiendra à Istanbul. Celle de mars est annulée. Le président Erdogan y avait été battu pour la première fois. L'opposition dans le pays crie à la dictature, vous l'entendrez. 1 million d'espèces menacées sur la planète. Les experts de la biodiversité alertent et Jacques Munier s'y penchera. Ce sera après ce journal. Avant cela, dans cette édition, nous reviendrons sur la réunion à Matignon hier entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Le dialogue reprend. Et puis nous entendrons les inquiétudes des professionnels du cinéma. Réflexion autour de la réforme de l'audiovisuel en France dans moins de 10 minutes. Commençons donc par cette indignation de l'opposition en Turquie. Les municipales à Istanbul ont été annulées hier, reprogrammées à la mi-juin. L'opposition avait remporté ce scrutin à 13 800 voix près face au parti du président Recep Tayyip Erdogan. Lui a officiellement contesté ces chiffres. Il a donc obtenu gain de cause auprès du Haut Conseil électoral. Le candidat de l'opposition, İmamoğlu, qui occupait officiellement le poste de maire d'Istanbul depuis le 17 avril, lui a réuni ses partisans. Hier, il s'est montré plutôt combatif, Anne Handlauer.
Depuis que le Haut Conseil électoral a invalidé sa victoire, Ekrem İmamoğlu n'est plus le maire d'Istanbul. Mais alors qu'au sein de l'opposition, certains plaidaient pour un boycott en cas de nouvelle élection, le vainqueur du 31 mars est apparu déterminé devant des milliers de partisans qui réclamaient la démission des instances électorales.
En multipliant les contestations, ils se sont mis à faire pression et à menacer le Haut Conseil électoral. Et ce dernier courbait les chines. Je condamne le Haut Conseil électoral. Je le condamne.
Ekrem İmamoğlu n'a pas appelé ses partisans à manifester. Il les a appelés au sang-froid.
Nous n'abandonnerons jamais. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce processus. Certains d'entre vous sont peut-être inquiets, certains sont peut-être désespérés. Essuyez vos larmes. Nous sommes ici et nous travaillerons tous ensemble.
Ekrem İmamoğlu le sait, la victoire ne sera pas facile. Mais s'il y parvient une fois de plus, ce sera un coup sévère dont le président turc Recep Tayyip Erdogan aura beaucoup de mal à se remettre.
Anne Handlauer à Istanbul pour France Culture. Là, il ne s'agit pas d'élections mais de négociations politiques. En Irlande du Nord, les discussions s'ouvrent aujourd'hui pour tenter de constituer un gouvernement. Cela fait en effet 2 ans qu'il n'y a plus d'exécutif dans cette province puisque partis catholiques et protestants n'arrivent pas à s'entendre. Les explications sur place d'Éric Albert.
L'Irlande du Nord traverse une sérieuse crise politique depuis 2 ans. Le partage du pouvoir mis en place entre le principal parti catholique, le Sinn Féin, et le principal parti protestant, le DUP, ne fonctionne plus. Officiellement, le gouvernement a chuté en 2017 pour une affaire de corruption, mais en fait c'était à cause d'années de vexations et de mauvais coups entre les deux camps. Par-dessus cela, il y a le Brexit qui divise profondément les deux communautés. La mort de Lyra Mackey le mois dernier pourrait changer un peu la situation. La jeune journaliste couvrait des émeutes à Derry quand elle a été touchée par une balle perdue de la nouvelle IRA, un groupuscule dissident paramilitaire. Ça a provoqué une énorme émotion et pendant les funérailles, les leaders du DUP et du Sinn Féin étaient présents côte à côte. Un prêtre catholique leur a posé la question « Pourquoi a-t-il fallu cette mort pour les réunir ?» L'ovation de la foule dans l'église a mis alors très mal à l'aise les deux dirigeants. Reste que leur rencontre aujourd'hui pour essayer de trouver un compromis s'annonce difficile. Tant que le Brexit n'est pas résolu, il sera compliqué de faire le moindre geste et les décennies de méfiance entre les deux communautés, même après 20 ans de paix, ne disparaîtront pas si facilement.
Je suis journaliste et je vais continuer. Voilà la première déclaration d'un des 2 journalistes de Reuters, l'agence de presse. Il a tout juste été libéré de Birmanie avec son collègue. Il avait été arrêté en décembre 2017, lors d'un reportage sur le massacre des Rohingyas, les musulmans dans l'ouest du pays. 500 jours plus tard, les 2 journalistes sont donc libres grâce à une amnistie présidentielle. Arrêtons-nous maintenant sur la visite du pape en Bulgarie. Il doit quitter le pays dans la matinée pour rejoindre la Macédoine, où il honorera la mémoire de Mère Teresa, un pays, la Macédoine, compliqué, tout autant que ces derniers jours passés en Bulgarie. L'église orthodoxe est majoritaire dans le pays et refuse de dialoguer avec Rome. C'est un reportage de Mathilde Imberti.
La rencontre interconfessionnelle pour la paix est boudée par l'église orthodoxe bulgare, pourtant la principale religion du pays. Les orthodoxes bulgares refusent de participer aux instances de dialogue officiel entre chrétiens. Une attitude anachronique retiennent bien des jeunes du pays. Christian, un jeune catholique.
Je ne comprends pas ce comportement. Pour moi, les chrétiens sont pareils. Tu es chrétien quand tu crois à Jésus-Christ et à la Sainte Trinité, peu importe de quelle confession. Je ne comprends pas. Le pape, lui, parle de tolérance et de coexistence des religions.
Le pape, en effet, poursuit son plaidoyer pour l'unité des chrétiens. Qu'importe s'il doit prier seul à la cathédrale de Sofia, les orthodoxes refusant de se joindre à lui. Qu'importe que la rencontre interreligieuse de clôture se déroule sans eux, son discours ne varie pas.
La paix exige et demande que nous fassions du dialogue un chemin, de la collaboration commune notre conduite, de la connaissance réciproque la méthode et le critère.
Demain, en Macédoine, il fera face à une autre problématique. Là-bas, l'Église a déclaré son autonomie. Donc, pour ne fâcher personne, dans la galaxie orthodoxe, le pape ne devra rencontrer aucun haut dignitaire religieux.
C'était Mathilde Imberti, envoyée spéciale en Bulgarie. Il est 6h36 sur France Culture. La biodiversité est en danger par notre faute. Voilà en substance le contenu du rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité. 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction sur notre planète. Hier, Emmanuel Macron en a profité pour faire plusieurs annonces à ce propos, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Le président de la République a également remis en cause le projet de la Montagne d'Or en Guyane, du nom de cette mine d'or géante qui devait être exploitée d'ici 3 ans. Ce que je sais du projet ne le rend pas compatible avec une ambition écologique. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et il était question d'écologie hier aussi à Matignon. Écologie et emploi. Le Premier ministre Édouard Philippe a reçu des syndicats, patronats et associations dans la suite du grand débat national. Un changement de méthode assumé pour renouer avec les corps intermédiaires. Écoutez Édouard Philippe.
C'est une façon de régler des problèmes pratiques et concrets qui se posent objectivement et j'observe que tous les acteurs qui étaient là ont parfaitement conscience que seul, personne n'est capable de les régler. Et donc, territoire par territoire, il faut qu'on fasse de la haute couture d'une certaine façon, en tout cas du sur-mesure, pour être certain que les solutions concrètes sont bien apportées et que les changements se voient.
Du changement, il était temps, lui répondent les élus du territoire. Il faut retrouver la confiance, insiste par exemple François Barouin, le président Les Républicains de l'Association des maires de France.
C'est certain, ça n'a pas très bien démarré. Des désaccords sur la politique, il peut y en avoir. Des désaccords sur la méthode, il peut y en avoir également. Tout cela additionné en aussi peu de temps, ça a fait beaucoup. Nous avons fait corps, je l'ai dit, aux côtés du président de la République au moment du grand débat. On n'était pas loin du chaos, ça a secoué très fort dans le pays. Et nous avons facilité, animé, transmis les revendications des administrés auprès de l'État dans le cadre de ce grand débat. Nous pensons que cette idée d'une grande ambition, d'une décentralisation où l'État va se recentrer sur ses missions, la sécurité, la défense, l'éducation, la santé, et va laisser tout le reste, au fond, à ceux qui peuvent le mieux le faire, c'est-à-dire les régions, les départements ou les communes, c'est probablement même une chance pour le président Macron. On a besoin de se parler. Après, est-ce qu'on sera d'accord sur tout, en tout temps, tout lieu, toutes circonstances, ça c'est une autre affaire.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge. Auteurs, réalisateurs, producteurs étaient réunis hier soir autour de la question de l'audiovisuel français et de son avenir, réunion à Paris. Face aux dirigeants, notamment de France Télévisions, les cinéastes ont voulu faire entendre leurs craintes, Fiona Mogadam.
La première des inquiétudes, c'est la réforme de la redevance. Nécessaire pour la plupart des personnes présentes dans la salle, elle n'est plus adaptée à notre monde actuel. Mais beaucoup s'inquiètent de son éventuelle suppression, comme l'a évoqué le ministre Gérald Darmanin en mars dernier. Parce que le financement de l'audiovisuel, c'est aussi son indépendance, rappelle la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Une indépendance synonyme de liberté qui est indispensable à la création, estime de son côté Pierre-Antoine Capton, directeur d'une société de production française. En 20 ans, France 2 et France 3 ont par exemple produit plus de 1800 films. 7 ont décroché une palme d'or à Cannes, rappelle le président de la Société civile des producteurs, Radou Mihailianou, qui a aussi insisté sur la nécessité de maintenir une régulation dans ce secteur pour faire face aux géants américains notamment.
Disney Fox, cette année, va investir 22 milliards de dollars dans la production audiovisuelle. La France, l'Europe n'aura jamais ces moyens-là. Nous, on a toujours combattu avec les armes de la diversité culturelle. C'est pour ça qu'on a inventé l'exception culturelle, justement pour nous donner la capacité à travers la régulation et la loi, de pouvoir exister. C'est-à-dire que nos pensées ne soient pas que dépendantes du marché, ça veut dire que de l'argent.
Le président de la Société des producteurs qui compare les grandes plateformes étrangères à des hypermarchés de la culture et de l'audiovisuel et qui met en garde, il ne faudrait pas se réveiller dans 50 ans en se disant que les petits commerces, c'était mieux, sans rien avoir fait pour les défendre.
Après de belles éclaircies dans la matinée, la pluie et les nuages gris vont arriver par l'ouest ce mardi. Comptez ce matin 10 degrés à Strasbourg, 12 à Rennes et Lyon, 13 à Paris, 16 degrés à Marseille.